France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Rebonsoir Jocelyn Farge.
Bonsoir Zoé.
Alors, on l'a dit, on l'a redit, on vous a gardé parce que vous êtes le fondateur d'une start-up baptisée Sounds Good. En gros, ça sonne bien,
c'est ça.
Qui a fait vraiment son trou dans cet univers du streaming dont on a beaucoup parlé et qui est en pleine mutation. Le cœur de votre activité, on l'a dit, c'est ce qu'on appelle la curation. Le curator à l'anglaise, c'est dans un musée, dans la version anglo-saxonne, celui qui choisit, qui compose une exposition.
C'est sélectionner les œuvres autour d'une thématique.
Exactement. Voilà. Pourquoi d'ailleurs plus ce terme que le terme de programmateur, qui correspond d'ailleurs peut-être plus pendant longtemps le programmateur de radio, le programmateur d'une salle de concert, c'est aussi une certaine idée de quelqu'un qui choisit.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a 4 ans quand on a commencé et qu'on a trouvé ce terme de curator, c'est une très bonne amie à moi, Marie, qui est curator à San Francisco, mais dans le marché de l'art. Et j'aimais beaucoup ce concept qu'on connaissait pas si bien que ça en France. Quand on est arrivé, quand on a commencé à monter la boîte, beaucoup de gens nous disaient qu'on n'avait pas le bon terme parce que c'était pas compréhensible. Et malheureusement, on a dû évoluer pour le terme d'influenceur. Aujourd'hui, on décrit Sounds Good comme la plateforme qui permet aux influenceurs de créer et partager leur sélection musicale. Donc un influenceur a ce côté peut-être un peu plus business que le curator ou le programmateur.
Alors justement, on va parler du concept de cette émission, de cette start-up, je m'embrouille les pinceaux, mais de cette start-up qui a un peu changé entre le début et ce qu'elle est aujourd'hui. Donc elle a été créée, vous m'avez dit, fin 2014, donc elle a un peu plus de 4 ans. Qu'est-ce qui a évolué? En fait, c'était quoi le constat de base, avec cette, comme on l'a dit, cette énorme montée en puissance du streaming? Qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce que finalement vous faites? Comment est-ce que vous êtes adapté?
Alors l'ADN de Sounds Good n'a jamais évolué. L'ADN, c'était vraiment de comprendre que quand on commence en 2014, le streaming est vraiment devenu le mode de consommation numéro un de la musique, en tout cas pour notre catégorie d'âge. Et les gens autour de nous se sentaient un peu... Il y a cette grande liberté tout d'avoir accédé à 30, 40 millions de titres, mais il y a cette frustration aussi de pas vraiment savoir quoi écouter, et ce qu'on appelle donc la tyrannie du choix. Et le grand challenge du streaming, c'est la recommandation, la curation. Et là où, peut-être par aussi souci de facilité, les plateformes s'orientaient beaucoup vers la curation algorithmique, on a eu envie de prendre ce parti, de dire que nous, on allait défendre la curation humaine. Donc notre ADN, c'est ça, c'est de donner les meilleurs outils aux humains, aux influenceurs humains, pour créer et partager leurs sélections, qui vont après ensuite diffuser à leurs auditeurs. Donc on a commencé d'abord en créant un média où notre but, c'était de ramener un maximum d'auditeurs sur cette page soundsgood.co et qu'ils puissent accéder à des
playlists,
catalogues de playlists. Voilà.
Soit de leur animateur préféré, soit d'une de leurs stars préférées, soit d'une marque qu'ils aiment bien.
Le pitch, c'était plonger dans l'univers d'un chef d'orchestre, plonger dans l'univers d'un coach sportif si vous voulez des playlists pour faire du sport, etc. Mais plonger dans l'univers de quelqu'un.
Et ça a bougé parce que nécessairement, en réalité, les géants du streaming dont on parlait tout à l'heure, ils sont déjà là.
Ils sont déjà là, que les maisons de disques n'attendaient pas non plus un nouvel acteur sur ce positionnement. En tout cas, il y avait la vision, l'ADN était là, mais le modèle économique n'était pas là. Et du coup, assez rapidement, ça s'est fait au MIDEM, donc le salon du marché de la musique à Cannes tous les ans. On a rencontré les professionnels des maisons de disques, donc les majors, Sony, Warner, Universal, et les plateformes de streaming. Et on a rapidement compris qu'on était dans le vrai, sur la partie justement vision ADN, mais qu'économiquement, il fallait plutôt s'orienter vers le marché B2B, c'est-à-dire
business to business, donc voilà, d'entreprise à entreprise.
C'est ça. Ne plus chercher à amener des auditeurs vers notre page, mais au contraire, être le service, donc continuer d'utiliser notre technologie pour aller chercher tous les influenceurs et leur permettre de créer leur sélection et après de les pousser sur les plateformes de streaming qui, elles, sont en contact avec l'auditeur.
Et de les faire exister aussi hors plateforme, parce qu'en fait, si on veut essayer d'être concret pour nos auditeurs, je suis une animatrice de radio très célèbre, Zoé Svez, même si c'est absolument pas le cas, j'ai envie de faire des recommandations de musique. Et vous proposez un espèce de lecteur universel, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que ça marche?
Alors concrètement, le groupe Radio France utilise beaucoup notre service, donc quelqu'un comme Rebecca Manzoni, qui fait sa chronique tous les matins sur France Inter, va créer sa playlist sur Sounds Good, et nous on va la dupliquer en son nom sur Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube, Qobuz, etc. Et donc elle est présente sur toutes ces plateformes, mais en réalité Rebecca, son audience elle l'a sur les médias du groupe Radio France, sur ses réseaux sociaux, etc. Et donc là on lui permet de partager un player unique qui va s'adapter à chaque auditeur. Si vous êtes abonné Spotify, vous allez l'écouter avec Spotify, la sauvegarder dans Spotify. Spotify, idem avec Deezer, idem avec Qobuz, etc.
Donc moi, je suis abonné au fil Twitter de Rebecca Manzoni, elle me partage une playlist.
Exactement.
Je suis abonné à Spotify, je peux la lire directement.
Vous la lisez, vous vous abonnez, elle est mise à jour tout. Alors, je crois qu'elle le fait que toutes les semaines, mais elle la met à jour régulièrement, et voilà.
Et du coup, comment est-ce que vous en vivez? Comment est-ce que vous monétisez votre modèle économique? Il marche comment? Parce qu'on a bien compris qu'il y a deux bouts,
ouais.
En fait.
Donc, c'est vrai qu'on a commencé d'abord par développer l'innovation, la technologie, la communauté, le produit. Et on a eu la chance d'être soutenu par des business angels issus de notre industrie de la musique et de l'entertainment qui nous ont aidés à financer ces développements. Et depuis la fin de l'année 2017, donc depuis maintenant 4 mois, on a commencé à monétiser notre entreprise Soundsgood. Donc on a une partie de nos revenus qui viennent directement des plateformes de streaming qui nous payent.
Spotify, Deezer and Company.
Qobuz, etc., Napster. Qui nous paye un abonnement pour pouvoir être intégré dans l'écosystème Soundsgood, et on leur pousse automatiquement toutes les playlists des influenceurs, et ils sont mis en avant à chaque fois qu'un influenceur partage une playlist. Donc ça, c'est une partie de nos revenus. Et une autre partie, c'est tous les services que nous demandent les influenceurs, qui sont des services un peu avancés par rapport à l'offre de base de Soundsgood, qu'on va appeler nous des features custom.
Feature. Alors justement, custom. Par exemple quoi?
Un influenceur qui veut un player customisé, donc personnalisé, un label qui va vouloir capter des datas sociales et de l'opt-in, grossir sa base pour d'abonner à sa newsletter
qui directement. Qui veut comprendre un petit peu qui ça touche,
voilà,
tout ça.
Collecter des datas via nos outils. Donc ça, c'est des features qu'ils nous demandent, qu'on fait pour eux, on facture. Et ensuite, à partir de juin 2018, on va mettre toutes ces features en commun et on va créer ce qu'on appelle, alors c'est le jargon, mais un compte premium. C'est-à-dire qu'un influenceur pourra avoir l'usage gratuit de Soundsgood pour faire sa curation, mais s'il veut ces features avancées, il payera un abonnement à Soundsgood.
Alors, évidemment, parmi les influenceurs, on trouve tout. Vous l'avez dit, il y a du Rebecca Manzoni, il y a parfois des artistes, il y a des chefs d'orchestre, il y a des coachs sportifs, puis il y a des marques aussi, c'est évidemment ça. Ça, c'est plus un problème aujourd'hui?
Alors, tout le monde est une marque, parce que tout le monde a besoin de se démarquer, d'engager une audience, de lui pousser du contenu. Ce qui est très fort avec la playlist, c'est que vous partagez une playlist à une audience, si cette audience la capte, un auditeur va la sauvegarder et va la réécouter dans son quotidien. Donc, une marque, mais Radio France, enfin France Inter, France Culture sont des marques, a la possibilité de rentrer dans le quotidien des gens. Alors vous le faites déjà avec les ondes radio.
C'est un peu le cœur de notre métier,
voilà.
Par ailleurs.
Mais par exemple, un artiste Broken Back, qui nous soutient depuis le début de l'aventure Soundsgood, fait des albums, fait de la création, mais il fait aussi de la curation, il fait des playlists. Et ses abonnés vont écouter au quotidien la curation de Broken Back et s'imprégner de l'univers de marque de l'artiste.
Dernière question, et un petit peu avocat du diable, mais en fait, là, vous le dites, tous ces gens-là, ils partagent ces playlists avec ce lecteur universel sur leur compte Twitter, sur leur Facebook. De l'autre côté, sur Spotify, Deezer, etc., nous proposent déjà des playlists, mais qui sont, entre guillemets, curationnées par eux-mêmes, ou par leurs algorithmes.
Majoritairement, oui.
Est-ce qu'on peut pas imaginer à la fin que ce soit ça? Que Spotify, au lieu de me proposer mon Daily Mix 1, mon Daily Mix 2, ma playlist 1, ma playlist 2, composée par un ordinateur à partir de ce que j'ai déjà écouté, pourrait pas proposer directement lui, en sachant que j'aime bien Rebecca Manzoni ou que j'aime bien tel artiste, lui-même proposer la curation? Est-ce que c'est pas quand même à la fin, ultime, la fin des fins, ce qui risque d'arriver, ce qui devrait arriver? Parce qu'on on en a parlé, on l'a écouté d'ailleurs tout à l'heure, quand on écoutait ces jeunes gens de micro-trottoir. Concrètement, aujourd'hui, il y a la tyrannie du choix. On ne sait pas quoi choisir, mais on est bien souvent, très vite, enfermé aussi dans ses propres choix.
Il y a deux effets. D'une part, le streaming se construit, donc les expériences vont évoluer. Et d'autre part, c'était aussi très important ces dernières années pour les plateformes de streaming de montrer qu'elles n'étaient pas juste des canaux de diffusion de musique et qu'elles étaient aussi un vrai levier marketing. Donc elles ont voulu imposer leurs playlists.
Et montrer qu'elles avaient du pouvoir.
Voilà, c'est ça. Et elles l'ont. Parce qu'aujourd'hui, c'est Spotify, c'est Deezer qui peuvent aujourd'hui développer un artiste.
Et c'est vos partenaires, mais c'est aussi un petit peu vos rivaux finalement. Même si c'est pas vos rivaux parce que vous n'êtes pas. Mais sur cette question de la curation, il y a quand même un enjeu et la bataille n'est pas gagnée.
Disons que nous, on donne vraiment des outils pour que les influenceurs puissent développer leur audience majoritairement sur leur réseau. Au sein de Spotify, au sein de Deezer, au sein de Qobuz, au sein de Napster, on est très content quand ils mettent en avant les playlists de ces influenceurs au sein de leur plateforme. Mais en aucun cas, on est rivaux. C'est-à-dire qu'on les aide, on leur fournit ce contenu. S'ils veulent l'utiliser, ils l'utilisent. Et s'ils ne veulent pas, ça viendra.
Ça viendra. Voilà. On suivra. Soundsgood, merci beaucoup.
Merci beaucoup.